Je connais un homme qui s'appelait Pharaon à l'époque de Joseph. Et Joseph, à cette époque-là, ce Pharaon, il vivait bien. Il vivait bien. Et jusqu'au jour où il y a un autre Pharaon qui était un tyran. Mais un tyran que Dieu a permis en vue d'Israël. En vue que Israël, un jour ou l'autre, sorte et triomphe. Donc, quoi que ce soit qui soit voté, c'est lui qui est souverain et c'est lui qui a tout dans sa main. Vous savez, Dieu a permis, hein, si un Hitler est sorti, ça faisait partie de son plan. Ça faisait partie de son projet. Si Hitler, je disais, si Hitler, il serait resté, il aurait prolongé son pouvoir, on aurait déjà eu la bombe atomique. Ouais. Vous savez, quand j'étais dans le Nord, j'ai visité, vous savez, où ils lançaient les V1, les V2, hein. C'était prêt, hein. Mais ils n'ont pas pu, parce qu'ils ont été bombardés. Mais si c'était un mois en arrière, là, ils auraient sorti. Et là, ça aurait été une véritable catastrophe. Donc, vous voyez, Dieu, il est sur toute autorité. Dans toute autorité, il y a un projet en vue de quelque chose. En vue de quelque chose. En vue d'accélérer le processus de sa venue. En vue d'anéantir un homme de pouvoir qui règne pendant un temps. Mais d'un seul coup, il peut être balayé en vue. Voilà. Alors, quoi que ce soit qui vote, ne culpabilisez pas. Il est souverain Dieu. C'est lui qui décide et c'est lui qui a tout dans sa main et c'est lui qui conduit. Et il y a un objectif, et il y a un but, et il y a un plan de Dieu. Amen. Alors on peut se réjouir. Alors donc rassurez-vous. Hein. Voilà. Le thème que je voulais parler, c'est sur l'angoisse. Sur l'angoisse. Alors la définition de l'angoisse, c'est un malaise psychique, physique, né du sentiment de l'imminence d'un danger, caractérisé par une crainte diffuse pouvant aller jusqu'à la panique. Alors l'anxiété, j'ai mis synonyme de l'angoisse, anxiété, inquiétude, peur. Et puis il y a une autre définition, l'angoisse, une grande inquiétude, anxiété profonde, née du sentiment d'une menace imminente. Alors notre corps, c'est vrai, nous sommes dans un corps humain, l'angoisse, ça fait partie de notre vie. On ne pourra pas l'enlever. On l'aura tous les jours. Ça nous accompagnera tous les jours de notre vie. Vous avez des angoisses, ben, les jours des examens, hein. Le jour des examens, les parents qui sont derrière, ils sont angoissés plus que pour les enfants. Tu vas réussir, hein, t'as bien appris tes leçons, hein. Les angoisses, c'est leur avenir. Les angoisses, c'est leur avenir. Vous avez des personnes qui sont angoissées, un membre de la famille qui est malade. On attend le verdict. Est-ce que c'est grave ou c'est pas grave, docteur? Voilà. Vous avez des angoisses, votre enfant qui rentre pas de l'école tout de suite. Ben, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il est pas là? Et puis on va tout de suite voir qu'est-ce qui se passe, hein. Je sais ce que c'est, hein. J'ai couru, hein, pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Il n'est pas encore sorti. En réalité, bon, il y avait du retard. Mais l'angoisse tout de suite. Son enfant, il n'est pas encore là. Donc, c'est des choses qui font partie de notre vie. Et que, effectivement, ben, voilà, qu'on gère d'une manière ou de l'autre. Mais nous allons voir dans la Bible des angoisses qui ont leur origine tout à fait différente. Et dont Dieu, chaque fois, a une solution. Alors, bien sûr, nous allons voir en premier, ben, qu'il y a des angoisses qui sont d'origine d'un mauvais choix. Hein, d'un mauvais choix. On a ici, par exemple, Genèse, au chapitre 12, et au verset donc 10 à 20, qui dit ceci. Alors, 10 à 20, il dit, « Il eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Sarah, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme très belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traitée à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée devant la maison de Pharaon. Et il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses, des chameaux. Enfin, voilà, l'abondance. Alors Pharaon appela Abraham et dit, mais l'Éternel frappa de grands plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarah, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Ainsi, je l'ai prise pour ma femme. Aussi, je l'ai pris pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. Donc ici, on voit Abraham dans l'angoisse. L'angoisse de la famine. Dans le pays où il était, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus à manger. Alors que c'était la peur. Ben oui, il avait l'épouse, il avait des serviteurs, il avait des troupeaux. Comment ils vont vivre ces gens-là? Et donc sa réaction, ben tout de suite, ça a été, ben on va aller en Égypte. Hein. Là-bas, il y a tout ce qu'il faut. Et la Bible dit quand il est descendu en Égypte, et pendant qu'il descendait en Égypte, il a demandé à sa femme de mentir parce qu'il avait peur. Il a donc fait un mauvais choix. Il est descendu et il a mis sa femme en situation compliquée. Il a mis aussi tous ses serviteurs en situation compliquée. Tout ça pour ne pas mourir de faim. Donc il a demandé de mentir. C'est un demi-mensonge, c'était quand même sa demi-sœur, mais c'était quand même un mensonge. Donc il a demandé de mentir à sa femme et de dire, tu vas dire ça, tu vas dire voilà que je suis ton frère et ainsi de suite, comme ça vient me traiter. Parce que c'est vrai que dans la, il y avait la coutume effectivement à cette époque-là, quand il y avait des belles femmes, le pharaon il la prenait. Donc il a fait cette démarche, il a dit voilà, tu diras ça. Et finalement je crois que le Seigneur, heureusement qu'il est intervenu, c'est là qu'on voit que le Seigneur est fidèle. Et dans ces mauvais choix, Dieu va intervenir. Va intervenir pour le sortir de là. Mais ensuite, c'est à Abraham de faire le choix de sortir de là. Et là, donc, c'est vrai que Pharaon dit, va-t'en, quitte ce pays. Va-t'en, ce pays où tu es bien, où tu vis dans l'abondance. Quitte ce pays. Mais Abraham, il aurait pu dire, non, je reste, parce qu'il y a ici de l'abondance. Mais la Bible dit qu'ensuite, Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Il est parti. Ben, effectivement, Abraham est parti, donc, et effectivement, il a quitté, ben, ce pays. Il a quitté ce pays, et la Bible dit, donc, résultat, Genèse chapitre 13, au verset 1 à 3, il est dit ceci, Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme, et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent, en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Et Bethel veut dire maison de Dieu. Et là, Abraham, il avait fait un autel. Et là, il est remonté sur cet autel. Il est remonté à la maison de Dieu. Il a obéi au Seigneur. Il a quitté l'Égypte pour revenir à la maison de Dieu et revenir à l'autel qu'il avait mis au début. Et cet autel, la Bible dit qu'il a donné un sacrifice. L'autel du pardon. L'autel, j'ai fait une erreur. L'autel, je me suis trompé. L'autel, j'aurais dû te concerter. L'autel, j'aurais pas dû paniquer. J'aurais dû pas me laisser pris dans mon angoisse. J'aurais dû me mettre à genoux. J'aurais dû chercher ta volonté. Il a fait un mauvais choix, mais on voit que la fidélité de Dieu. Comme le Seigneur dit, il sait qu'on est des êtres compliqués, hein, on est des êtres compliqués, on veut toujours avoir le dessus, mais heureusement, le Seigneur est toujours là, et le Seigneur, effectivement, eh bien, il a donné cette possibilité à Abraham de quitter l'Égypte, et Abraham, il n'a pas dit à Pharaon, je reste parce qu'ici je suis bien, Abraham, il a quitté. Et parce qu'il a quitté l'Égypte, ensuite, Dieu a pris soin de lui, et Dieu a veillé sur lui, et Abraham a été restauré, et Abraham a été relevé de nouveau. Oui, effectivement, l'angoisse peut venir de mauvais choix qu'on peut faire dans sa vie. Et je pense que c'est important de savoir que, en toute chose, quand on fait des mauvais choix, qu'on le reconnaît, Dieu est celui qui répare, et Dieu est celui qui restaure, et qui délivre, et qui guérit. On a un autre exemple dans la diapo numéro 2. Il est dit dans Ruth, il est dit du temps du juge, il y avait une famine dans le pays, un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi et ses deux fils s'appelaient Maclon, Kilchon. Ils étaient Éphraïm de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils fixèrent leur demeure. Il est dit ici donc qu'il y avait aussi une famine. Il y avait une famine dans le pays où ils étaient. Et la réaction normale, c'est s'il y a une famine dans le pays où on est, ben on part. Et ils sont partis. Ils sont partis, ils ont quitté Israël pour aller dans ce pays, effectivement. Et ils sont restés 10 ans pour vivre tranquille, pour ne pas mourir de faim, pour être vraiment dans l'abondance. Pour être dans l'abondance. Et là aussi, c'est un mauvais choix. C'est aussi un mauvais choix. Ils ont réagi par peur, par angoisse. Ils ont réagi un peu comme « sauf qui peut ». Voilà, on va vite trouver une solution, sauf qui peut, on va s'en sortir. On va faire ça comme ça, voilà. Et voilà, allez les frères et sœurs, allez Israël, hein. Au revoir. Hein. Et ils sont partis là, dans ce pays. Ils ont vécu 10 ans. Conséquence au verset 3-5, « Élimélec, mari de Moab, mourut. Son mari mourut et elle resta avec ses deux fils. Et ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent environ là 10 ans. Maclon et Kilchon moururent aussi, tous les deux. Et Naomi resta privée de son mari et de ses deux fils. Elle a tout perdu. C'était terminé. Elle avait tout perdu et il n'y avait plus rien. Alors, qu'est-ce que fait Naomi? Naomi, finalement, là on voit encore, ayant vu cette situation, elle n'est pas restée dans l'amertume comme ça. Elle a dit, je retourne à Israël. Et heureusement qu'elle a eu, je dirais, ce réflexe de retourner de là où elle était. Retourner dans la maison de Dieu, retourner auprès du Seigneur. Et c'est vrai, quand Naomi, elle est revenue avec Ruth. Ruth voulait absolument la suivre. Hein. Il est dit ici dans Naomi, dans Ruth, chapitre 1, verset 6, « Puis elle se leva, elle et sa belle-fille, afin de quitter le pays de Moab, car elle avait appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. » Voilà. Donc elle revient à la case de départ, là où elle aurait dû rester, là où elle aurait dû savoir attendre que Dieu agit d'une manière ou d'une autre, mais pas se sauver et finalement de faire ce mauvais choix par peur, par angoisse, par crainte. Voilà. Et alors là, effectivement, elle est revenue et Dieu l'a bénie et Dieu l'a consolée. Bien sûr, il l'a consolée, bien sûr, elle était brisée. Parce que quand elle est revenue, elle a dit « Oh, Naomi, 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 Naomi !» Tout le monde était content de la revoir. Naomi, ça veut dire « ma gracieuse ». Et Naomi ne m'appelait plus Naomi. J'ai de l'amertume contre l'Éternel. Pas ce que Dieu vient de faire, c'était plutôt contre elle. Mais elle avait un cœur d'amertume. Elle se disait « ne m'appelait plus Naomi. » Parce que j'ai trahi, parce que je me suis sauvé, parce que je me suis évadé. Voilà, parce que j'ai fait un mauvais choix, j'ai pris une mauvaise décision. Et on voit que Dieu Tout-Puissant, eh bien, malgré que cette femme est remplie d'amertume, parce qu'elle a tout perdu, parce que c'est un échec total, parce qu'elle s'est trompée, parce qu'elle a fait un mauvais choix, parce qu'elle a écouté sa peur, elle a écouté son angoisse, elle a appris que là-bas c'était bien, elle est là-bas, elle a tout perdu. Et on voit que Dieu, eh bien, il est celui qui va la consoler. Il va la consoler comment? Regardez dans Ruth chapitre... C'est vrai que je ne sais pas si j'ai mis tous les diapos. Ruth chapitre 4, verset 14-17. Je ne crois pas, hein. Non. Oui, ça faisait beaucoup trop. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom serait célèbre en Israël. » Cet enfant restaurera ton âme, parce que elle a rencontré effectivement Boab, avec qui elle se mariait, et avec qui elle a eu un enfant. Ruth a eu un enfant. Et donc, effectivement, Naomi, qui était la belle-mère. Et cet enfant restaurera ton âme, et il sera ton soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée et elle vaut mieux que pour toi que sept fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein et elle fut sa garde. Et vous savez qui c'était cet enfant ? C'était de la généalogie de Jésus-Christ. Vous voyez, la consolation de Dieu, la guérison de Dieu. Naomi, dépitée. Naomi, KO. Naomi, désemparée. Naomi, on dit, elle ne se relèvera plus. Non. Elle est revenue et Dieu a dit, tu es revenue à la maison et Dieu l'a restaurée. Au travers de Ruth, il y a eu la naissance d'un petit bébé à qui elle va donner le sein et dont qui elle va s'occuper. Et ce petit bébé, eh bien, fait partie de la généalogie de Jésus-Christ. Vous voyez la puissance de Dieu, la puissance de guérison, la puissance de restauration de Dieu quand on fait des mauvais choix, quand on fait des mauvais choix et qu'on revient au Seigneur. Le Seigneur ne peut pas être indifférent. Quand on revient vers lui, il y a obligation de guérison, il y a obligation de restauration, parce que Dieu est amour. Et quand on s'approche de lui, c'est comme déjà si on rentre dans son amour, et à ce moment-là, il y a guérison systématique, systématique, parce qu'on rentre de nouveau dans sa maison, on rentre de nouveau dans son cadre d'amour, dans son cadre de pardon, dans son cadre de restauration. Ça, c'est la puissance de Dieu qui console. Oui, on est sur cette terre, on peut faire des mauvais choix. Moi aussi, j'ai fait des mauvais choix. Mais j'ai vu chaque fois, quand je l'ai compris, Dieu m'a restauré. Et au travers des mauvais choix, on apprend. Au travers des mauvais choix, la foi grandit. Vous savez, la foi grandit pas seulement quand tu as des victoires, mais la foi grandit aussi quand il y a des échecs, on en tire des leçons. Hein, je disais à une personne qui disait, oh oui, mais bon, je dis, non, tire-en une leçon. S'il y a une chose que le diable n'aime pas, c'est quand on réagit, qu'on dit, j'en tire une leçon de cette chose négative. J'en tire une leçon, j'apprends quelque chose, je découvre quelque chose, j'expérimente quelque chose, et j'en tire une leçon. Et ça, le diable, il n'aime pas. Il n'aime pas ça. Donc, oui, c'est un échec, mais ils en ont tiré une leçon. Abraham, comme Naomi, ils en ont tiré une leçon. Oui, la Bible dit bien, Jérémie, chapitre 31, verset 3 à 4, de loin, l'Éternel se montre à moi et il dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté, je te rétablirai encore et tu seras rétabli vierge d'Israël. C'est le pardon, c'est le plein pardon qui ne se lasse pas. Qui ne se lasse pas. Je te consolerai encore, je te rétablirai encore, je ne t'oublie pas, maison d'Israël. Je ne t'oublie pas, mon enfant préféré, mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée, je ne t'oublie pas. Quoi que ce soit que tu as fait, je ne t'oublierai jamais. Je ne t'oublierai jamais. Et c'est ce qu'il a fait avec Abraham, et c'est ce qu'il a fait avec Naomi, et c'est ce qu'il fait avec chacun d'entre nous, même si nous trompons, mais que nous revenons, Dieu il nous oublie pas. Il nous console encore, et encore, et encore, et nous visitera encore, et nous restera encore, et il nous rétablira. Et je dirais même que la gloire de la première situation, de la première maison, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Amen. Et ça, j'en suis tout à fait persuadé. Je me souviens d'un frère qui était venu me voir et j'étais au travail. Et quand il est venu me voir, j'étais au bureau et il va me voir, il me dit, écoutez, frère, voilà, je prie pour avoir du travail. Je trouve pas de travail. Et puis on prie ensemble, d'accord. On a prié et puis il m'appelle une semaine après, il me dit, écoutez, frère Daniel, j'ai trouvé du travail. J'ai trouvé un travail, c'est super. Il me dit, bon, c'est vrai, c'est un travail, je gagne pas beaucoup, mais le patron, tout, c'est vraiment une entreprise, c'est aimable. Ils sont d'une gentillesse dans cette entreprise, et le patron, il est vraiment d'une grande gentillesse. Et c'est vrai qu'il se trouvait bien dans ce lieu. Puis après, j'ai plus de réponse, et 6 mois après, je reçois un coup de fil, et le frère me dit, écoutez, est-ce que je peux vous voir? Ben, je dis oui, mais je dis, bon, tombé mal, je suis à mon travail. Et il m'a dit, mais c'est pas grave, je peux venir. Oui, vous pouvez venir pendant ma pause. Il est venu me venir au travail et il est venu pour me dire, écoutez, j'ai fait une grosse bêtise. Je dis, ah bon, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? J'ai cherché un emploi où je gagnais plus. J'ai trouvé une entreprise où j'étais mieux payé. Mais il m'a dit, c'est l'enfer. Tous les jours, j'ai des angoisses quand je vais sur mon lieu de travail parce que j'en vois de toutes les couleurs avec mon chef d'équipe et avec le patron. Tous les jours, il me tombe dessus. Tous les jours, il me tombe dessus. Mais je dis, pourquoi tu as fait ça? On a prié, tu as ouvert une porte, tu ne gagnais pas beaucoup, mais c'était dirigé par le Seigneur. Toi-même, tu as dit, dans cette entreprise, j'étais bien. Pourquoi tu as fait ça? Je dis, écoute, on va reprier, confesse au Seigneur, demande-lui pardon parce qu'il t'a ouvert une porte. Tu t'es laissé miroiter beaucoup plus, tu as le droit, mais quand Dieu t'ouvre une porte, remets les choses entre les mains de Dieu, au cas où, si tu veux changer, prier. Et donc, on a prié de nouveau pour que le Seigneur, il intervienne et qu'il répare de nouveau, effectivement, la chose. Mais vous voyez, il a fait un mauvais choix. Il a été béni par le Seigneur. Le Seigneur lui a ouvert une porte. Il ne gagnait pas beaucoup, mais l'ambiance était extraordinaire. Il rentre à la maison, il était en paix. Là, il a changé, il gagne plus. Mais alors, je ne vous dis pas. Hein. Je ne vous dis pas les coups de fouet et les angoisses qu'il avait. Et il s'est mis souvent en maladie. Hein. Et le fait de reprendre le travail le lendemain, la boule qu'il y avait. Vous voyez? Soyons vigilants, mes frères et sœurs, oui. Faisons des bons choix et remettons effectivement tout entre les mains du Seigneur, afin que le Seigneur vraiment soit celui qui dirige et conduit. Alors, bien sûr, il y a aussi des angoisses quand il y a des obéissances. Aussi, comme avec Saül. Saül, que bien sûr, a désobéi deux fois. Il n'a pas voué par interdit ce que Dieu lui avait demandé. Il a pris la place du sacrificateur alors qu'il n'avait pas le droit. Il a fait tout ça. Et puis, résultat, cet homme qui, tout au début, quand je lis ces passages, était un conquérant. Un homme de combat, un homme qui prenait des victoires, un homme conduit par Dieu, un homme dirigé par Dieu, mais un homme qui, petit à petit, a désobéi à la parole, a désobéi à ce que Dieu lui demandait, a désobéi. Et il a fait des choses qu'il n'aurait jamais dû faire. Et résultat, quand il y a Goliath qui est venu et qui a lancé ce défi à Israël pour le combattre, Goliath, ce géant, il est dit, Saül tremblait. Saül avait peur. Alors qu'avant, c'était un homme qui n'avait pas peur. Là, il avait peur. L'angoisse l'avait saisi parce qu'il avait désobéi à Dieu. Ce n'était plus le même homme. Et devant Goliath, quand il y avait ce défi, il tremblait. Et en plus, cette angoisse, il a mis sur Israël. Parce que du coup, tout Israël, dès qu'il hurlait, Goliath, tout Israël était aussi pétrifié, avait aussi peur à cause d'un homme qui était à la tête et qui avait désobéi. Et donc, parce qu'il avait désobéi, il y a eu toutes les conséquences qui ont suivi. Il a fallu que ce soit un petit garçon, un petit David, qui est venu. Et la différence, quand on voit ce petit garçon, c'était rien. Parce que quand il s'est approché contre Goliath, Goliath a dit, mais attends, tu n'es qu'un enfant. Même David lui a dit, tu n'es qu'un enfant. Et quand Saül a voulu lui mettre son armure, il prenait l'épée, il était sûrement là, et l'armure, impossible, ça le gênait, il pouvait pas. Mais s'approcher de Goliath avec son arme à lui, sa petite foi, mais une petite foi qui tue, parce qu'il a pris un caillou, une fronde, il avait 5, il a pris un caillou, et la différence, c'était un homme qui était entre les mains de Dieu, qui obéissait quand son père lui a dit « va garder tes brebis », il y allait et faisait ce que son père disait. Il était à la place où Dieu lui avait mis et qu'il acceptait. Et quand il s'est approché de Goliath, il lui a dit, moi, je viens au nom de l'Éternel. Ça, c'est la différence. Un homme de foi. Un homme dont l'Esprit de Dieu était sur lui et un homme dont l'Esprit de Dieu a quitté Saül à cause de sa désobéissance. À cause de sa désobéissance. Et finalement, eh bien, Goliath a été terrassé par David. Alors oui, notre désobéissance envers Dieu peut faire perdre de sa puissance, peut faire perdre de l'onction de Dieu sur notre vie. Et plus nous désobéissons, eh bien, plus l'onction de Dieu, elle, diminue. Vous vous rappelez de Samson, vous avez une fois prêché là-dessus, Samson qui a persisté dans le péché, et la Bible dit que l'Esprit de Dieu s'était retiré de lui. Oh, maintenant, on n'est pas dans l'Ancien Testament, on est dans le Nouveau Testament. L'Esprit de Dieu, la Bible dit que l'Esprit de Dieu, il demeure sur nous éternellement, c'est écrit. Mais son onction, son intensité diminue. À rapport à quelqu'un qui marche avec Dieu pleinement, l'autre, il a plus de mal, il souffre, il traîne la patte. Il traîne la patte. Et effectivement, soyons vigilants, mes frères et sœurs. Restons dans l'obéissance, parce que c'est vrai, quand on désobéit, effectivement, l'onction de Dieu peut diminuer. L'onction de Dieu peut diminuer. Et c'est vrai qu'on voit que Dieu n'a pas oublié son peuple. Il a envoyé, alors oui, David qui les a délivrés de Goliath. Ce Goliath a été vaincu et Israël a été délivré, effectivement, a été délivré de la puissance de l'ennemi. Ouais, oui, voilà. On peut effectivement connaître des angoisses quand il y a désobéissance. On peut aussi connaître des angoisses, la diapo 4, c'est quand la servitude étouffe l'appel de Dieu. Hein? On se rappelle de la peur que le peuple d'Israël avait, et c'est vrai que la peur était plus forte que l'appel de Dieu. C'est-à-dire que Moïse a été envoyé de Dieu pour délivrer Israël. Hein? Mais Israël avait pris peur. On voit dans Exode chapitre 6, au verset 6 à 9, « C'est pourquoi je dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchis des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchis des travaux dont vous chargent les Égyptiens. » Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Ainsi parle Moïse aux enfants d'Israël. Mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Et c'est effectivement, il y a des servitudes, qui peuvent effectivement être là et empêcher qu'on entende la parole de Dieu. Il y a des souffrances qui sont tellement pesantes. Il y a des souvenirs qui sont tellement pesants, qui sont dramatiques et qui empêchent que Dieu peut nous parler. Et on a du mal à entendre Dieu nous parler. Ça passe mal. Et c'est ce qui s'est passé avec Israël. Mais on voit encore une fois que Dieu, il ne lâche pas prise. Il ne lâche pas prise parce que Dieu quand même va continuer cette œuvre pour les délivrer de la servitude qu'ils ont connue, pour les délivrer de cette servitude, de cet esclavage qu'ils ont connu. Dieu va insister et après on va connaître effectivement, eh bien Dieu va les libérer au travers des 12 plaies et il va les libérer finalement définitivement là et ensuite le peuple il sort triomphant. Il sort totalement triomphant. Donc effectivement, on peut effectivement, eh bien, connaître des angoisses quand la servitude étouffe l'appel de Dieu. Quand elle étouffe cet appel qu'on a de la part de Dieu, qui nous encourage d'aller toujours plus loin, de marcher avec lui, de progresser avec lui. Et on peut connaître effectivement des périodes comme ça. On peut connaître. Mais on voit que Dieu, il ne lâche pas. Nous avons cette possibilité que eux, maintenant, c'est vrai, peut-être il n'y a pas Moïse, mais nous avons la parole de Dieu. Nous avons cette possibilité chaque jour de lire la parole de Dieu qui nous permet d'avoir une réponse de la part de Dieu face à telle ou telle situation. Face à telle ou telle situation où nous sommes, la parole de Dieu, elle va se révéler. Moi, je connais, il y avait un frère qui m'avait téléphoné. Ça fait des années qu'il était dans l'angoisse, dans la terreur, et qui vivait des choses très, très compliquées. Et il lisait sa Bible, mais il n'entendait pas vraiment ce que Dieu lui disait. C'est comme s'il y avait un plafond de plomb. Hein. Voilà, c'est comme si avec du plomb, ça ne passait pas. Et puis, on avait prié ensemble, et c'est là qu'on voit que ce frère, comme il voulait, le Seigneur l'a entendu. Et le Seigneur m'avait donné un passage, et j'ai eu le frère au téléphone, et je lui ai donné ce passage. Et deux jours après, il me rappelle et me disait, « Frère, ce passage que vous m'avez donné, c'était de la bombe. » C'est comme tout, si tout avait explosé et que je voyais enfin de nouveau le ciel bleu. Et il était délivré de sa servitude. Mais il n'entendait pas ce que Dieu lui disait. Il n'entendait pas ça, mais Dieu a entendu ses cris et Dieu a donc permis que je le rencontre et que je lui parle et que je puisse lui donner ce passage que j'avais vraiment à cœur, mais Dieu a dirigé. Vous voyez, Dieu est celui qui intervient effectivement, même quand nous sommes dans la servitude, pour nous délivrer et pour nous libérer. Alors aussi, il y a des angoisses quand nous voyons des choses. Israël a été délivré. Ils étaient devant la mer Rouge. Hein, c'est la diapo 5. Ils étaient devant la mer. Et puis, ils étaient angoissés. Parce que ils ont vu des choses. La Bible dit, Exode chapitre 14, verset 10, « Pharaon approcha et les enfants d'Israël jetèrent les yeux. » Ils jetèrent les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient aux marches derrière eux et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils crièrent à l'Éternel. Donc il y a des angoisses effectivement aussi, vous voyez. Quand nous voyons des choses, c'est une réaction tout à fait normale. C'est une tout à fait normale. Et finalement, Dieu est quand même une fois intervenu encore au travers de Moïse. Et nous avons encore cette possibilité qu'est la parole de Dieu. Et nous avons encore cette possibilité où il y a des frères et des sœurs à qui on peut parler, qui vont nous donner des réponses, qui vont nous aider et qui vont vraiment nous parler, encore une fois, de la part de Dieu. De la part de Dieu. Hein? Ouais. Mais faisons attention. Vous voyez, mes frères, souvent, il y a des angoisses. J'ai vu. Et on reste là. J'ai vu. Mais Seigneur, tu es là. Mais Seigneur, tu es présent. Mais Seigneur, tu es ici. Et je sais, Seigneur, même si j'ai vu, je ne veux pas me laisser envahir de mes angoisses parce que ta Bible dit, tu es avec moi et tu es avec moi tous les jours jusqu'à la fin et que tu marches devant moi. Donc, je ne suis pas tout seul. Je ne suis pas tout seul. On connaît aussi l'histoire donc des espions, des 12 espions qui étaient envoyés à Canaan. Et les 12 sont revenus avec un compte-rendu très négatif. Ils sont allés, ils ont visité, ils ont dit, oh là, c'est des géants. Et ils ont pris peur, ils ont expliqué, on était à deux à porter la grappe et tout. Il y en a 10 qui étaient effrayés, et les 10, ils ont dit ça au peuple, et tout le peuple était consterné, angoissé. On dit, mais on est foutu, sauf deux, qui ont réagi, et qui ont dit, mais l'Éternel a dit, et finalement, ces deux, c'est vrai que ils ont encouragé le peuple à aller de l'avant et à conquérir. Voilà. Nous pouvons, c'est vrai, transmettre nos peurs dans notre foyer. Nous pouvons transmettre notre peur à notre épouse, à notre épouse, à notre mari, et vice versa, dans ce qu'elle voit, dans ce qu'elle entend. Mais faisons attention. Soyons vigilants pour que cette peur ne se transforme pas en angoisse, mais réagissons et disons, je vais prier. Je vais prier pour éviter que les peurs ou les angoisses nous fassent faire des choses et nous éloignent et nous dévient de tout ça. Alors aussi, quand nous pouvons être aussi dans des angoisses quand nous sommes dans la volonté de Dieu. Quand nous sommes face à une situation difficile. Dans la diapo 6, vous vous rappelez avec la barque, les disciples dans la barque, Marc chapitre 4, versets 35 à 40, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, Jésus, il dormait à la poupe, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, maître, un reproche, hein, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Vous voyez le reproche qu'ils font à Jésus, tandis dehors, et puis nous, hein, on a failli. Hein. Et Jésus s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur ? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils étaient là dans la barque, Jésus qui dormait. C'était, il dit, « Allons à l'autre bord. » Je crois que je l'ai déjà raconté, hein. Dans cette barque, il y avait comme des professionnels, pierreaux, des pêcheurs. Quand il y avait de l'eau qui rentrait, des vents qui soufflaient, ils avaient l'habitude. Hein. Les autres qui n'avaient pas l'habitude, ils avaient la peur. Mais les autres disaient, t'inquiète, nous on est là, on était professionnels. Mais là, c'était très très dramatique. Au point que aucun de ces pêcheurs professionnels ne pouvait contenir une telle action de la part du vent. Et là, ils ont dit, on va périr, on va mourir. C'est des gens, c'est des frères, c'est des disciples qui sont partis selon la volonté de Dieu. C'est le Seigneur qui a dit, entrez dans la barque et passons à l'autre côté. C'était le plan de Dieu. Ils étaient dans le plan de Dieu. Et Jésus dormait, quand ils ont vu ça, waouh, la panique, l'angoisse, la peur, ça y est, c'est fini, on va mourir, on va mourir. Et c'est pour ça que leur Seigneur leur dit, homme de peu de foi, dans le sens, qui vous a dit d'aller là? Qui? C'est vous? Non, c'est moi. Donc si c'est moi qui vous a dit d'aller là, vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous étiez en train de faire de ma volonté. Donc si vous êtes dans ma volonté, moi je vous garde. Je vous garde. Parce que vous obéissez à ma direction. Donc ne soyez pas angoissés. C'est moi qui vous a emmené là. Vous savez, le dernier travail que j'ai eu, c'était vraiment, je crois que je vous ai déjà raconté, c'était vraiment un miracle, une porte miraculeuse qui s'est ouverte. Mais dans le dernier travail, j'ai connu toutes sortes de situations compliquées, difficiles, où je croyais que c'était terminé. J'étais licencié, c'était terminé. Il y avait des choses compliquées, difficiles. Mais finalement, chaque fois, je me suis appuyé sur le Seigneur. C'est lui qui m'avait ouvert les portes. Ça tient du miracle dans le travail où j'étais. Et même ma femme m'avait dit, à l'époque, elle m'a dit, le jour où tu quitteras la structure, le jour où tu partiras, le jour où tu seras à la retraite, ce foyer, il va fermer. Et ce foyer est toujours fermé actuellement. Il est toujours fermé. Après, ça me choque aussi, parce qu'il y a tellement de besoins, il y a tellement de jeunes qui sont en détresse. Et c'est vrai que j'ai connu des difficultés, j'ai connu des choses compliquées, mais chaque fois, je me suis appuyé sur le Seigneur. Seigneur, c'est toi qui m'as dit, va là. Donc si je vais là, je suis dans la barque où tu m'emmènes, donc tu prends soin. Et chaque fois, Dieu est intervenu, au travers de la direction, au travers d'un nouveau directeur, au travers d'une situation. Tout s'est aplani. Tout s'est aplani. Vous voyez ? Ça, c'est la différence. Ça, c'est la différence. On peut être dans la volonté de Dieu. On peut être dans le plan de Dieu. On peut obéir à sa parole, mais rien n'empêche que vous n'allez pas connaître des situations difficiles. Mais n'écoutez pas vos angoisses. Appuyez-vous sur le Seigneur. Amen. Seigneur, je fais ta volonté. Je suis ta volonté. Je suis dans ta volonté et j'accomplis ta volonté. C'est autre chose si on n'oublie pas. Alors là, il y a de quoi être angoissé. Mais voyez, mes frères et sœurs, il est important, effectivement, donc, de rester confiant dans le Seigneur, surtout quand on est dans le plan de Dieu, surtout quand on obéit à sa parole, quand on suit sa parole, on est dans la bonne barque. On est dans la bonne barque. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas connaître des tempêtes, on va connaître des ouragans, on ne va pas connaître des menaces. Ce n'est pas la même chose. On est quand même dans la bonne barque et on fait confiance au Seigneur. Et on lui fait confiance. Et en lui faisant confiance, on éteint nos angoisses. Et moi, je me souviens, quand il y avait des choses difficiles, j'en parlais même pas à ma femme. Moi, j'allais au lit, je dormais comme un ange. Et quand mes collègues de travail me disaient, ça a été, t'as bien dormi? Ah ben oui, hein. Ah bon? Et t'en as parlé à ta femme? Mon Dieu, je vais pas l'occuper avec ça, je vais la laisser tranquille. J'en parlais même pas à ma femme. Et j'ai bien dormi. Et je dormais bien. Et mes collègues, ils avaient peur. Je me souviens, quand j'avais un autre travail, je cherchais du travail dans le Nord, et puis j'étais un petit peu partout, et je ne trouvais pas. Et à un moment, il y a un monsieur qui me dit, où que vous alliez, vous n'allez pas trouver. Même dans l'agence intérimaire, parce que j'avais une agence intérimaire qui s'appelait CEPATIM, voilà. Il m'a dit, n'y allez pas, c'est pas la peine, ils ne cherchent pas. J'ai dit, ah bon, d'accord. Et j'y vais pas. Et puis au moment où je rentre à la maison, j'étais pas bien. Et plus j'entrais à la maison, plus j'avais l'impression que l'Esprit de Dieu était en train de me freiner. J'avais du mal à faire mes pas. Alors je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai un malaise, j'ai quoi? J'ai un problème de santé, qu'est-ce qui se passe? D'un coup, je ralentis, j'arrive plus. Et puis, tout à coup, je sens dans mon cœur, va à l'agence intérimaire. Et puis moi, je continuais pour rentrer à la maison, et plus je voulais rentrer, plus les pas ralentissaient. Et à un moment, j'ai dit, allez, tu y vas. Et au moment où j'ai dit, j'y vais, j'étais en pleine forme. Je vais à l'entreprise, à l'entreprise qui s'appelait CEPATIM. Et là, je me présente. Et j'ai dit, écoutez, voilà, est-ce que vous cherchez du personnel? Et je vois un des responsables qui vient et qui dit, non, c'est bon, hein, c'est bon, j'ai déjà quelqu'un. Et tout à coup, la secrétaire qui se lève et qui dit, toi, tu te tais, toi, hein, va avec ton alcool dans le coin, laisse-moi tranquille, moi, je prends ce monsieur. Lui, il avait décidé, il avait déjà eu quelqu'un dans sa tête, et elle a dit, non, venez, monsieur. Et elle me dit, mais comment ça se fait que vous êtes ici? On allait mettre l'annonce dans le journal. Le lendemain, ils voulaient mettre l'annonce dans le journal qu'ils cherchaient du personnel, cherchaient une personne. Il m'a dit, comment ça se fait? Ben, j'ai écouté, je dis, je vais faire un tour, hein. Je n'avais pas tout lui donné, toutes les explications, et j'ai eu ce travail. Et pendant 3 ans, j'ai eu ce travail, je n'ai jamais manqué de quoi que ce soit. Et c'était une entreprise navale, où je travaillais sur des grands bateaux, des méthaniers, et pendant 3 ans, j'étais là, il y avait 3000 ouvriers. Et un jour, on apprend que l'usine va fermer, sera vendue et sera exportée autre part pour la construction. C'est-à-dire 3000 ouvriers licenciés. Des hommes et des femmes qui ont acheté des maisons, qui ont investi, et là, tout va fermer. Et moi, j'ai fait partie de cela. J'ai fait partie de cela. Et encore une fois, je dis, Seigneur, tu m'as voulu là, moi je t'ai obéi, j'étais dans le bateau, donc je n'angoisse pas. Je dis à mon épouse, on ne va pas s'inquiéter de quoi on va manger, on va vivre. C'est le Seigneur qui m'a ouvert une porte, il ouvre une autre. Effectivement, le Seigneur avait ouvert une autre porte. Il avait ouvert une autre porte parce que ma femme me dit, tu sais que ça fait, elle était depuis quelques années comme secrétaire au foyer. Donc, qui accueillait des alcooliques, il cherchait un éducateur. Et comme j'étais de profession éducateur, elle me dit, écoute, ça fait maintenant 3 ans qu'il cherche un éducateur. Est-ce que tu veux? J'ai dit, ma femme, j'ai rigolé, ben, je dis, voilà, la réponse, elle est là. Vous voyez? Dieu dirige. Dieu conduit. Oui, on peut connaître, même effectivement, quand on est dans la volonté de Dieu, quand on marche avec le Seigneur, on peut connaître tout ça. Mais quand on obéit et qu'on marche avec le Seigneur, on est béni, on est rassuré. On est vraiment, vraiment rassuré. Alors, bien sûr, on peut être aussi dans l'angoisse. Comme je dis, c'est avec, avec Joseph. Joseph, c'est vrai, c'est un homme qui n'a pas choisi la situation et il s'est trouvé esclave chez Pharaon. Il n'a rien fait pour mériter ça. Il n'a rien fait. C'est ses frères qui sont mal comportés. Et là encore, on voit effectivement, que Dieu est celui qui va agir effectivement dans la vie de Joseph et qui va intervenir. C'est la diapo 11. On va essayer d'accélérer parce que je vois que le temps il tourne. C'est la diapo 11. Il est dit ici, Genèse 41, versets 41 à 44, « Pharaon dit à Joseph, « Voici, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Et il le revêtut d'habits et de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait les siens. » Joseph, il faut savoir qu'il est d'abord avec Potiphar. Joseph, il faut d'abord savoir revenir dans l'histoire, c'est que il était avec Potiphar, il servait Potiphar, il a été transporté d'esclaves en Égypte, alors qu'il n'a rien fait de mal, il ne l'a pas choisi. Mais la Bible dit que l'Éternel fut avec Joseph. Et Joseph, chez Potiphar, il était bien vu. Parce que Potiphar, il voyait que Joseph, finalement, était béni par Dieu. Qu'il était béni, que sa maison était bénie. Que tous ses biens étaient bénis. Alors du coup, Potiphar l'a gardé dans sa maison. Et Joseph, la Bible dit donc que l'Éternel fut avec Joseph. Mais ensuite, Joseph, il servait l'Éternel, il a rencontré un gros problème. C'est que la femme de Potiphar le convoitait. La femme de Potiphar le désirait, elle le voulait. Et Joseph a refusé. Et on connaît la suite, c'est que Joseph a été jeté en prison. Il n'avait rien fait. Mais on voit aussi que, parce que Joseph était dans l'obéissance, donc Dieu l'a béni. Quand on est dans l'obéissance, même si on peut être jeté aux pâtures, Dieu, il est celui qui nous garde. Ce qui semble être négatif, en réalité, se transforme en bénédiction. Joseph, c'est vrai, il a été jeté en prison, c'est-à-dire qu'il était au fond, il était là, en prison, pour une chose qu'il n'avait jamais commis, pour une chose qu'il n'avait jamais fait. Mais la Bible dit que l'Éternel fut avec Joseph. Il fut avec Joseph. Et c'est vrai qu'on n'est pas exclu des tentations. Moi, quand j'étais éducateur, je me souviens, j'étais éducateur dans un foyer pour femmes, et je me souviens quand je me suis levé pour aller déjeuner, qu'est-ce que je vois devant moi? C'est pas la première fois qu'elle avait fait une femme toute nue qui passe devant moi exprès. Et cette femme avait souvent dit, ah mais on a droit à deux maris chez nous. Hein. On a droit à deux maris. Voyez comment on est exposé. Oh, après j'ai clarifié la situation, j'ai vu ça avec la direction afin de me couvrir. Mais on est dans le monde, on peut être exposé dans le monde, et on peut même être jeté aux pâtures. Et Joseph a été jeté en prison injustement. Mais parce que Joseph était honnête, parce que Joseph n'avait rien fait de mal, la Bible dit que l'Éternel fut avec Joseph. Et au fond, Joseph, qu'est-ce qui s'est passé? Comme il a expliqué le rêve à Pharaon, la Bible dit qu'il a été élevé. Joseph a été élevé et il était le premier ministre de Pharaon. Il était le premier ministre de Pharaon. Alors oui, mes frères et sœurs, soyons confiants dans le Seigneur. On peut rencontrer des angoisses, c'est vrai, mais soyons confiants dans le Seigneur, parce que le Seigneur est celui qui agit. Pierre était jeté en prison, parce qu'il a prêché l'évangile, il n'a rien fait. Alors qu'avant, c'était le Pierre qui avait trahi Jésus. Mais là, Pierre était jeté en prison parce qu'il n'avait rien fait, parce que simplement il prêchait l'évangile, et la Bible dit qu'il dormait. La Bible dit qu'il n'était pas dans l'angoisse, il n'était pas dans la peur de ce qu'il attendait. Il dormait de la paix, de la foi. Il avait cette paix, cette foi en lui. Il n'avait rien fait. C'est à cause de Jésus qu'il a été jeté en prison. C'est à cause de Jésus qu'il a été mis en prison. Parce qu'il proclamait la foi, parce qu'il dit « il vaut mieux obéir à Dieu qu'à un homme ». Et la Bible dit que Joseph dormait. Il dormait tellement que l'ange a dû lui donner un coup pour le réveiller. Tellement qu'il dormait profondément. Oui, parce qu'il obéissait. On peut obéir et rencontrer ce genre de situation. Mais être en paix et ne pas donner accès à l'angoisse parce qu'on est dans le plan de Dieu. Amen. Amen. Alors oui, mes frères et sœurs, l'angoisse, c'est tout à fait logique. À nous de voir. Qu'est-ce qui l'a déclenché? Quelle est l'origine de cette angoisse? Quelle est l'origine de cette crainte? Quelle est l'origine de cette peur? Et, comme on dit, de faire le point à genoux devant le Seigneur. Et de faire le point. Et d'être honnête avec soi-même. Et de chercher la réponse. de chercher la cause de cette angoisse, de prier et de prendre appui sur la parole de Dieu, de se mettre en règle, de demander l'aide aux frères et sœurs. Voilà la démarche qu'il faut faire. Voilà la démarche qu'il faut faire. Quand il y a des angoisses dans notre vie, il est bon de faire le point. Amen. Il est bon de faire le point et de chercher la cause. Et si il y a des angoisses parce qu'on est dans la volonté de Dieu, il n'y a rien à chercher. Il y a juste à faire confiance au Seigneur. Il y a juste à faire confiance au Seigneur. Et le Seigneur va nous emmener de victoire en victoire. Amen. Voilà. On va remettre ça entre les mains du Seigneur. J'ai un peu raccourci parce que le temps, il passe. Parce que j'avais tellement de choses à dire. Mais bon. On va remettre ça entre les mains du Seigneur. Hein? Amen. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Tu es celui qui veut parler au cœur de chacun d'entre nous. Tu sais quelle est la raison, Seigneur, de ces angoisses, peut-être les uns les autres que nous vivons. Tu veux aider chacun d'entre nous à nous mettre au pied de ta croix et de faire le point. Et de faire le point, Seigneur. Et de chercher quelle est la cause. Il n'y a peut-être pas de cause, mais alors de te faire confiance. Et s'il y a une cause, Seigneur, tu veux aider mes frères et sœurs, d'apporter ça devant le trône de ta grâce, de le confesser, Seigneur, et Seigneur, de se détourner des mauvais choix, Seigneur, de se détourner de ces mauvais choix. Parce que quand on se détourne de ces mauvais choix, Jésus, on est déjà sur un chemin de guérison, on est déjà sur un chemin de rétablissement, comme tu l'as fait avec Abraham, comme tu l'as fait, Seigneur, avec Naomi, et avec bien d'autres, Seigneur. Comme tu l'as fait à David quand il a péché, Seigneur, quand il a commis l'adultère, Seigneur, et qui disait, mon âme se déchaise, mes os sont rongés, je suis angoissé, mais parce qu'il a confessé, Seigneur, parce qu'il avait fait un mauvais choix, parce qu'il t'a désobéi, Seigneur, il a retrouvé le chemin de la guérison et le chemin du salut. Alors oui, Seigneur, je veux te prier que tu passes dans les rangs, et Seigneur, que tu sondes les cœurs, Jésus, et que tu restaures, Seigneur, ceux, Seigneur, qui ont fait des mauvais choix, que tu les aides, Seigneur, à les confesser dans leur cœur, que tu les aides à se mettre en règle, et que tu les aides à se détourner des mauvais choix, Seigneur, et de revenir sur le bon chemin, Jésus, pour connaître de nouveau la joie, la grâce, l'onction du Saint-Esprit, la visitation du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit. Père, je te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Que nous ayons juste un petit moment de silence. Et que vraiment, s'il y a des personnes vraiment qui ont fait des mauvais choix, je ne demande pas de vous lever la main, mais dans votre cœur, d'apporter ça au Seigneur. Dans votre cœur, de faire le bon choix, de prendre de nouveau le bon chemin. Et d'abandonner le mauvais choix, afin que le Seigneur puisse vous rétablir et vous guérir et vous restaurer. Et vous, peut-être qui êtes sur le bon chemin, mais qui vivez ces choses, ne vous inquiétez pas, vous êtes sur le bon chemin et le Seigneur est avec vous. Ayez foi en sa parole. Ayez foi qu'il est celui qui va dénouer les situations compliquées et difficiles et qui va intervenir dans votre vie et qui va se passer des choses dans votre vie.